Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour vivre 7 jours d'événements avec la rédaction. Nous sommes en compagnie de Claude Angeli et de Stéphanie Meignier, tous deux auteurs des Micros du Canard aux éditions Les Arènes.
Une semaine d'actualité.
Dans un instant, nous partirons pour l'Afrique. Rendez-vous également avec vos messages, bien sûr. Mais tout de suite, l'actualité française, comme d'habitude, et des mesures d'économie annoncées mercredi par le nouveau Premier ministre, Manuel Valls, pour réaliser 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques entre 2015 et 2017. Les députés socialistes ne sont pas emballés, c'est le moins qu'on puisse dire. Pierre Firsion, jeudi.
Non-revalorisation des prestations sociales, maintien du gel des salaires des fonctionnaires. Certaines des annonces faites hier par Manuel Valls ont provoqué l'indignation d'une partie de la majorité. Le coprésident du Parti écologiste à l'Assemblée, François de Rugy.
On risque d'étouffer encore un peu plus l'économie et le pouvoir d'achat des Français en s'attaquant aux prestations sociales. En l'état, les écologistes ne pourront pas voter ce plan.
L'aile gauche du PS et certains proches de Martine Aubry brandissent la même menace. Eux non plus ne voteront pas ce texte s'il n'évolue pas. Car pour ces élus, les mesures annoncées ne vont pas dans le bon sens, comme l'explique le député Laurent Baumel, membre de l'aile gauche du parti.
C'est problématique d'avoir une politique financière, économique en direction des entreprises, financée par les Français les plus modestes. Ça veut dire qu'on n'a pas entendu le message des municipales. Donc moi, ça me met en colère.
Des critiques que certains élus socialistes ont aujourd'hui du mal à entendre. Le député Bernard Roman, proche de François Hollande.
C'est inacceptable. On discute en groupe, on essaye d'améliorer les positions, mais on ne les condamne pas avant même d'en avoir parlé.
Manuel Valls a maintenant 2 semaines pour tenter de convaincre sa majorité du bien fondé des mesures annoncées. Le 30 avril, le Parlement se prononcera sur le programme de stabilité.
Suite d'une semaine d'actualité en France, avec cette fois des accusations graves contre un conseiller du président, François Hollande, proche de Manuel Valls, il s'agit d'Aquilino Morel, Lisa Castelli, hier.
C'est le portrait d'un homme en contradiction avec ses principes que peint Mediapart. Conseiller du président depuis 2012, Aquilino Morel s'est fait connaître du grand public en rédigeant notamment le rapport sur le scandale du Mediator. Cependant, selon les témoignages recueillis par le site d'investigation, la plume de François Hollande serait un personnage autoritaire, épris de luxe, peu présent à l'Élysée, mais surtout, il serait coupable d'un grave conflit d'intérêts. À la fin des années 2000, alors inspecteur général des affaires sociales, Aquilino Morel aurait effectué plusieurs activités de conseil auprès de laboratoires pharmaceutiques, et cela pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une double casquette incompatible avec son rôle de haut fonctionnaire, pouvant lui coûter jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Dans un droit de réponse publié en fin d'après-midi, Aquilino Morel réfute ces affirmations et assure que ses activités ont été validées par une commission de déontologie. Homme influent à l'Élysée, proche de Manuel Valls mais aussi d'Arnaud Montebourg, le conseiller est au cœur de l'appareil d'État. Si elle s'avérait fondée, les accusations de Mediapart pourraient bien constituer un énième accroc à la promesse de république exemplaire.
Sept jours en France.
Claude Angeli, Stéphanie Meignier, je vous vois très désireux de réagir à toutes ces informations. Manuel Valls, Aquilino Morel, Stéphanie.
Aquilino Morel, c'est particulièrement catastrophique.
Alors, on sait qu'il a démissionné.
On sait qu'il a démissionné, mais au moment où le gouvernement et le président de la République demandent des efforts aux Français, dans l'article de Mediapart, il n'y a pas que le conflit d'intérêts possible avec les laboratoires pharmaceutiques.
Non,
il y a son goût du luxe, il y a la façon dont il traitait le personnel de l'Élysée, les deux chauffeurs qu'il s'était attribués pour lui et sa famille. Le cireur de chaussures qui vient du Bon Marché et qui, à l'hôtel Marigny, sous les dorures, cire les 30 paires de chaussures faites sur mesure. C'est véritablement une catastrophe. D'autant que la politique aujourd'hui est bien souvent remplacée par de la communication, que Manuel Valls veut un homme de communication. Il l'est d'ailleurs, mais pas très bonne. Et j'ai trouvé ces chiffres dans le magazine Capital de novembre 2013. Lorsque Valls était maire d'Evry, les frais de communication entre 2001 et 2002, en un an, ont bondi de 852,6% et n'ont jamais baissé depuis. Au cabinet du maire, on a compté jusqu'à 49 chargés de mission. Et en 2012, les frais de communication à la mairie étaient de 800 000 euros. Plus 400 000 euros de frais divers. Autant vous dire que les impôts ont augmenté, eux, de 46%. Donc, pour la France, avec Valls à la tête du gouvernement, je ne sais pas à quoi il faut s'attendre.
Claude ? Vous disiez, vous vous demandiez, pendant, en écoutant ces reportages, vous disiez, tiens, peut-être qu'un jour la gauche sera au pouvoir.
Oui, peut-être qu'un jour la gauche sera au pouvoir. Et puis je voudrais faire une réflexion sur Aquilino Morel. Si dans un film, on avait vu un personnage en chaussettes qui téléphone avec auprès de lui 30 paires de chaussures et le cireur venu du bon marché qui les cire, on aurait dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas mettre ça, personne n'y croira. Eh bien là, c'est la réalité.
Le Bon Marché qui est sans doute le magasin le plus chic de Paris. Il faut le préciser.
Luxe rive gauche à Paris, oui.
Alors revenons au micro du canard, ces fameux micros que vous avez découverts le 3 décembre 1973, Claude Angéli, grâce à André Escaro, dans des circonstances là aussi dignes d'un roman. Il faut lire le livre qui est formidablement bien écrit en plus. Vous n'avez eu de cesse après de mener l'enquête, évidemment.
Ça a duré 7 ans. Avant un non-lieu, où bien entendu, la justice n'a pas demandé un sou au canard compte tenu de sa bonne foi. Mais le non-lieu était particulièrement ridicule, puisqu'il disait que, comme il n'y avait pas d'occupation des bureaux par des journalistes, il ne pouvait pas y avoir de conversation privée, et donc il n'y avait pas lieu de poursuivre. Voilà. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que pendant ces 7 ans, nous avons découvert aussi que Mitterrand avait été espionné dans les mêmes conditions.
Alors ça, c'est une des révélations du livre. Hein.
Oui.
Les écoutes, c'est-à-dire que l'appartement, la maison de François Mitterrand avait été aussi sonorisé, entre guillemets.
On en avait un peu parlé déjà à l'époque dans le canard, mais là, on revient en grand sur cette question. Et d'ailleurs, on reproche à Mitterrand de pas avoir pris des précautions, puisque la maison a été vide pendant les fêtes de fin d'année, et donc les plombiers de la DST ont pu récupérer leur matériel. Ensuite, Giscard a été écouté par les gens avec qui il partageait le gouvernement, par Pompidou et par Marcellin. Puis quand Giscard est devenu président et qu'il avait promis qu'il n'y aurait plus d'écoute et qu'il avait un premier ministre qui a rompu avec lui en 1976, qui s'appelle Chirac, il a mis sur écoute Chirac et le canard enchaîné, bien entendu. Et d'ailleurs, quand nous avons publié ça, il a répondu que ça n'était pas exact, qu'il avait fait vérifier, et on l'a traité de menteur ouvertement à la une du canard enchaîné. Ensuite, Chirac, au pouvoir, avait promis d'abandonner toute écoute téléphonique. Qu'a-t-il fait? Il a fait écouter Sarkozy avec Villepin. Là, pareil, nous l'avons écrit, nous l'avons prouvé. Ouais. Et Villepin, que nous connaissons, Stéphanie Meynier et moi, depuis peut-être une quinzaine d'années, s'est bien gardé de protester. Et que fait Sarkozy quand il est au pouvoir? Il a été écouté, il devient écouteur, comme les autres. Et alors, vous avez dans le Figaro, le 18 juin 2008, des généraux, des amiraux, certains à la retraite, qui publient un texte critiquant le livre blanc de la défense qui a été mis au point par l'Élysée. Et ça fait entrer Sarkozy dans une colère noire. Il demande une enquête. Bien entendu, on met des officiers sur écoute pour savoir s'il s'agit d'eux. On perquisitionne l'école militaire. On saisit des ordinateurs d'officiers. On met le général Vincent Desportes sur écoute. Tout cela, nous l'avons écrit et détaillé. Et ensuite, quand il y a les affaires Bettencourt, Karachi et autres, que fait Sarkozy? Ben, il mandate la DCRI, c'est-à-dire le renseignement intérieur, et Bernard Scorsini, qui est l'un de ses partisans, pour écouter les journalistes, pour rechercher les factures de leur téléphone, pour détecter un informateur. C'est la grande question. Et ça fait une partie du livre qui est, à mon avis, aussi intéressante que les micros du canard, puisque c'est la preuve que cette société est malade et que les hommes politiques sont fous des méthodes techniques qui leur permettent de savoir ce que préparent leurs opposants ou les journalistes qui les critiquent.
Et tout cela, Claude Angéli, Stéphanie Meynier, va continuer, hein, parce que vous dites à la fin du livre, vous revenez sur la loi de programmation militaire qui a été votée, je crois que c'était à la fin de l'année dernière, ou très récemment, qui prévoit que les écoutes peuvent continuer, et même s'élargir, d'ailleurs.
Oui, il y a même deux choses qui nous ont paru importantes en regardant d'un peu près les dispositions de cette loi. C'est que aujourd'hui, Claude Angéli ne pourrait plus publier les noms des plombiers dans le canard enchaîné. Ce serait interdit par ces nouvelles dispositions du Code de sécurité intérieure. Et autre chose aussi, le juge d'instruction ne pourrait plus convoquer dans son bureau les plombiers. ils seraient obligés de se déplacer à leur bureau à eux et d'avoir la présence d'un chef de la hiérarchie,
etc. Donc il y a une régression.
Donc il y a vraiment une véritable régression extrêmement inquiétante parce qu'elle n'a pas l'air de mobiliser grand monde. Et quand la loi a été votée, il y a eu très peu de protestations. Il faut savoir aussi que les écoutes en France sont confiées à une société privée qui est la société Thales. C'est un énorme marché, une société privée avec tous les problèmes que ça pose, opacité, confidentialité, sécurité, etc. Et aussi contrôle. Le contrôle est quasiment inexistant.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
C'est notre adresse électronique, vous la connaissez par cœur. Merci pour vos messages. Un salut à quelques auditeurs qui nous ont écrit à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour par exemple à Djibril, ainsi qu'à Lamine Diem à Dakar. Un salut à Bakary Fofana, à Moussa Danyoko à Bamako, à Israël Moussa et aussi à Mamadou Bodj, qui est un grand lecteur, semble-t-il, de Gabriel Garcia Marquez.
7 jours en Afrique.
Et d'abord, partons en Algérie avec bien sûr l'élection présidentielle jeudi dont on vous parle dans nos journaux. Environ un électeur sur deux s'est déplacé. Participation annoncée pour cette présidentielle, 51,70% de participation donc, alors que cette participation était de 74% lors de l'élection de 2009. Écoutez ces réactions de quelques électeurs algériens.
J'ai pas voté. Ni moi, ni mes enfants, ni ma femme. À quoi ça sert de voter?
Je vote pas. Ça me fait ni froid ni chaud.
J'ai voté, mais sans grande conviction, sans motivation aussi. Bien entendu, j'ai une préférence, à défaut d'une espérance. Il fallait bien voter pour quelqu'un.
Bien sûr, j'attends du changement. Mais j'espère que le changement ne viendra pas avec un bouleversement. Voilà pourquoi j'ai voté.
Le vote, c'est un devoir. J'ai toujours voté, je voterai toujours. J'attends de la stabilité pour mon pays.
Pas de changement.
Quand on change, il faut que ça soit mieux. Mais parmi les candidats que nous avons, il n'y a pas mieux.
À choisir entre ceux qui n'ont rien à prouver, on préfère un vieux papa, malade, que quelqu'un qu'on ne connaît pas.
22 millions d'électeurs avaient en théorie à choisir entre 6 candidats, mais la victoire du président sortant Abdelaziz Bouteflika était annoncée à l'issue d'une campagne électorale pour le moins verrouillée. Alger mardi, Laïla Berato.
Au mois de mars, alors qu'il faisait un reportage lors d'une manifestation du mouvement Barakat, Hassan Ouali, journaliste politique du quotidien El Watan, a été interpellé.
Il leur montrait le badge de carte de presse, mais... Ils sont foutus de tout ça, ils ont embarqué tout le monde et puis on a passé toute la journée dans un commissariat de police.
Est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi vous aviez été arrêté?
Non, les policiers étaient visiblement missionnés pour embarquer tout le monde.
Quelques jours plus tard, c'est la télévision privée, Atlas TV, une chaîne critique envers le pouvoir qui a été suspendue par les autorités après une perquisition de la gendarmerie.
Nous refusons de nous soumettre aux diktats de ce pouvoir aux pratiques illégitimes et anticonstitutionnelles et qui a pris en otage les institutions de la République.
Les autorités reprochent à la chaîne d'avoir invité un ancien ministre, autrefois membre du FIS, le parti islamiste dissous. Au cours de la campagne électorale, un journaliste d'El Watan a été arrêté de nuit dans son hôtel pendant un reportage. Et la fin de la campagne ne semble pas apaiser les choses puisqu'hier, un quotidien a perdu ses revenus publicitaires après avoir hébergé dans ses locaux la conférence de presse du mouvement Barakat.
Campagne électorale où les candidats n'ont pas eu les mêmes moyens. Envoyé spécial à Alger cette fois, Marie-Pierre Olfan.
Le code électoral fixe à 60 millions de dinars, soit environ 600 000 euros, le plafond des dépenses pour un candidat au premier tour de la présidentielle. Un plafond largement dépassé par certains durant cette campagne. L'équipe d'Abdelaziz Bouteflika aurait à elle seule dépensé 75 millions d'euros, selon la presse algérienne. Une campagne déséquilibrée donc est critiquée par ceux qui se sentent lésés car ils n'ont pas eu les mêmes moyens. C'est le cas en particulier des candidats Moussa Touati et Ali Faouzi Rebein. Preuve de ce déséquilibre, les
l'équipe de campagne du président et celle d'Ali Benflis ont fait la plupart de leurs voyages en avion. Ce sont les seuls à avoir eu aussi les moyens de prendre en charge des journalistes pour couvrir leurs meetings. Ce qui a fait la différence avec les autres, c'est essentiellement le soutien de généreux bienfaiteurs. Et là encore, c'est le camp présidentiel qui rafle la mise en attirant des entrepreneurs espérant gagner des marchés publics dans les prochaines années. Abdelaziz Bouteflika a aussi obtenu le soutien officiel du Forum des chefs d'entreprise, ce qui n'a pas manqué d'ailleurs d'entraîner une crise au sein de cette association des patrons.
Suite d'une semaine d'actualité au Nigeria, cette fois hier, 115 des 129 lycéennes enlevées par de présumés islamistes de Boko Haram étaient toujours portées disparues. Elles ont été enlevées, il faut le rappeler, au lycée de Chibok, dans l'état de Borno. C'est ce que la directrice du lycée indiquait. Les autorités disent poursuivre leurs recherches. En attendant, il devient de plus en plus risqué d'étudier dans la région. Lagos, jeudi, Julie Vandal.
Est-il désormais impossible d'aller à l'école dans le nord-est du Nigeria ? La question est sur toutes les lèvres et résonne déjà comme une petite victoire pour les islamistes de Boko Haram. Si la secte, dont le nom signifie en langue haoussa « l'éducation occidentale est péché », a régulièrement pris pour cible les établissements scolaires depuis 2009, elle a intensifié la cadence de ses attaques ces 6 derniers mois. Fin février, 43 élèves avaient ainsi été tués lors de l'assaut de leur lycée à Bouni Yadi dans l'état de Yobe. Pour prévenir de nouveaux massacres, les autorités de l'état voisin de Borno avaient alors décidé de fermer plus de 85 établissements pour une durée indéterminée, obligeant 120 000 lycéens à rester chez eux. La mesure avait suscité la colère des parents d'élèves sans réussir à dissuader les islamistes. De fait, depuis lundi soir, plus d'une centaine de lycéennes sont portées disparues après leur enlèvement par de présumés membres de Boko Haram. Alors que faire ? Fermer toutes les écoles ou assurer leur sécurité par des militaires ? Le sujet divise les autorités. Quant aux étudiants interrogés par RFI, ils se disent terrorisés. De quoi mettre en péril l'éducation dans une région déshéritée où le taux d'analphabétisme est déjà l'un des plus élevés du pays.
À suivre évidemment dans nos journaux, notez aussi un attentat dans la banlieue d'Abuja, toujours au Nigeria, lundi, plusieurs dizaines de morts. Sachez enfin que 3 juges français viennent d'être saisis de l'enquête sur l'assassinat de nos 2 confrères et amis, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le 2 novembre dernier à Kidal. Il s'agit des 3 spécialistes des dossiers de terrorisme, Marc Trévidic, Laurence Levert et Christophe Tessier. Vendredi dernier, le parquet de Paris, qui dirigeait jusque-là cette enquête, a ouvert une information judiciaire contre X pour enlèvement et assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des crimes terroristes d'atteinte aux personnes.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes toujours en compagnie de Claude Angéli et Stéphanie Meignier du Canard Enchaîné, auteur des Micros du Canard, Les Micros du Canard, un livre publié aux éditions Les Arènes, et aussi Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous écoutés avant de devenir écouteurs, c'est le sous-titre du livre. Claude, un mot sur l'Algérie, sur cette étrange élection ?
Mais, aucune confiance aux chiffres, parce que je ne vois pas pourquoi la fraude s'exprimerait simplement par des bourrages d'urnes, par des pressions sur les électeurs, par le fait toujours de dire si Bouteflika n'est pas élu, ça va être le chaos et la guerre avec les islamistes. Non. L'armée et les services de renseignement, la fameuse direction du renseignement et de la sécurité, l'ex-sécurité militaire, décident de tout. C'est-à-dire qu'ils ont toujours choisi quel devait être le président de la République algérienne. Et donc, là, ils n'ont pas trouvé quelqu'un de capable d'être candidats. Ils sont en désaccord, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ils ont choisi de continuer à présenter un homme malade, malheureusement pour lui, qui se déplace en fauteuil roulant pour aller voter.
Oui, qu'on a vu aller voter, c'est l'image désastreuse pour l'Algérie.
Qui a une voix déplorable et tout, qui est carrément trop fatigué pour diriger ce pays. Et ils l'ont choisi en attente d'un autre accord, lorsque celui-ci mourra. Parce que voilà, on ne peut pas penser que pendant 4 ans, Bouteflika va gouverner l'Algérie. Il en est bien incapable. Il ne pourra jamais se déplacer à l'étranger ou même dans son propre pays.
Stéphanie Meignier.
Oui, je voudrais juste rappeler que tous les chefs d'État, quand ils sont malades, essaient de cacher leur état. Pour Bouteflika, c'est évidemment très difficile. Mais dans les Micros du Canard, en 1973, Georges Pompidou est déjà extrêmement malade.
Ah, nous sommes à la fin de 73, il est voilà. Mort en avril 74.
Ouais. En avril 74, il souffre d'un cancer hématologique qui provoque des hémorragies internes. Et il est traité avec de la cortisone, ce qui fait que son aspect change. C'est tout à fait visible à l'œil nu, malheureusement. malheureusement. Et là aussi, il y a une espèce de connivence entre les journalistes et le pouvoir, parce que personne ne parle de la maladie du président. Et pendant toute l'affaire des micros, les micros sont découverts en décembre. À partir de janvier, le président restera la plupart du temps chez lui, sous assistance respiratoire.
Comment avez-vous su, Claude Angélie, qu'il s'agissait de la DST ? Et comment avez-vous pu vérifier cela ? Il faut le raconter.
C'est la chance de ma vie. C'est quelqu'un qui m'a dit un jour, quelques jours après la découverte des plombiers au Canard, c'est la DST. Je lui ai dit, mais vous savez quelle preuve vous avez ? J'en ai aucune. Mais...
Alors, il faut rappeler la DST, c'était le service de contre-espionnage français.
Il me dit, je le sais, et je ne vous ai jamais baratiné, je vous ai jamais raconté quelque chose de faux. Et à partir de ce moment, je me mets en chasse, parce que je connais une jeune femme qui est en rapport avec quelqu'un de la DST. Et je lui demande de me faire rencontrer très vite cette personne. Une nuit, à 3h du matin, elle m'appelle... 2h du matin, elle m'appelle, il y a de la musique, tout ça. Elle n'appelle pas de chez elle, naturellement. Et je comprends qu'il faut que je me déplace. Je me déplace et je trouve dans son studio un jeune inspecteur. Il avait posé un revolver sur l'oreiller à côté, mais ça, c'était simplement parce que ça le gênait sous son blouson.
Ça crée un climat, hein.
Ça crée un climat, mais c'était pas pour moi le revolver. Et il a été assez choqué par l'opération pour me dire, c'est mon service, c'est la DST, et voici quelques noms. Et à partir de ce moment-là, je l'ai vu plusieurs fois, il m'a même averti que la DST, en colère par toutes les révélations qu'on faisait dans le Canard Enchaîné, qu'on publiait dans le Canard Enchaîné, que nous allions être traités d'espions au service de l'Est, espions soviétiques, que on allait faire savoir aux magistrats, aux journalistes, et à la population via les médias que un repère d'espions soviétiques se trouvait au Canard Enchaîné. Ce qui a été fait, puisqu'il y a des journaux comme Valeurs Actuelles qui l'ont publié, comme il y a des journalistes qui ont été informés au Figaro, au Monde, que nous étions quelques-uns à être des agents stipendiés par Brejnev, et bien entendu. On l'a publié avant même qu'il ne lance cette opération. Ça ne les a pas empêchés de le faire, ce qui montre à quel point la bêtise, la connerie même, n'était pas leur moindre défaut.
Voilà. Alors, il faut lire ce livre, parce qu'il y a des tas de détails qui montrent qu'effectivement, quelquefois, on a l'impression qu'on a affaire à des pieds nickelés, hein, que c'est l'opération est vraiment sabotée. Alors, pour le journaliste que je suis, et je pense que des lecteurs vont se poser la question, vont se dire, mais les informateurs du Canard Enchaîné, les fameux informateurs du Canard Enchaîné, alors je crois que vous avez même eu un contrôle fiscal sous Giscard, le Canard Enchaîné, oui. Parce qu'il croyait que vous aviez énormément d'argent pour payer ces informateurs.
Le raid fiscal sur le Canard Enchaîné s'est fait sous Giscard, avec un ministre du budget qui s'appelait Maurice Papon.
Ah oui, et qui, il faut le rappeler aussi.
Dix mois après ce contrôle fiscal, et sans rapport avec ce contrôle fiscal, nous aurions les documents prouvant qu'il avait participé à la déportation des Juifs à Bordeaux. Et ce contrôle fiscal, c'était la recherche d'une caisse noire permettant de récompenser des fonctionnaires, des policiers, des magistrats, des officiers qui nous donnaient les informations. C'est complètement stupide. Ça n'a donné aucun résultat. Et les informateurs du Canard Enchaîné, aucun n'a été découvert.
Parce qu'on s'interroge, en lisant le Canard, ce que je fais religieusement, dirais-je, chaque semaine, qui alimente la fameuse page 2, intitulée la mare au canard, où on a parfois l'impression que le canard est une petite souris qui se glisse dans les conversations, même entre deux personnes dans une pièce.
Il y a des bavardages. Les ministres bavardent dans leur cabinet ministériel, les membres des cabinets ministériels bavardent avec des journalistes. C'est une société quand même qui est pénétrable. On ne vit pas au monde du secret dans une dictature. Et, si vous voulez, il y a une logique. Et il y a aussi des gens que ça leur plaît de raconter un petit peu des choses désagréables sur les autres.
Stéphanie Meunier.
En fait, ce que j'ai découvert moi aussi en travaillant sur cette affaire, c'est qu'il y a différentes motivations pour un informateur quand il choisit de contacter un journaliste et d'apporter des documents ou des informations. Il y a effectivement la page 2 du Canard, elle est très franco-française. Des petites histoires entre cabinets ministériels, entre hommes politiques, qui donnent des choses pour nuire à un concurrent ou à un ami. Mais les affaires importantes, généralement, et c'est vraiment ce dont il faut se féliciter, ce qui est remarquable, sont apportées par des gens qui ont un réflexe civique, un petit peu comme Snowden avec l'affaire de la NSA, mais des gens qui sont révoltés de voir comment sont utilisés les fonds de l'État ou certaines pratiques qui les heurtent. Et ça a été le cas de l'inspecteur qui a informé Claude Angéli sur les plombiers. Pour les informateurs, on donne des pseudonymes, bien évidemment, dans le livre. Mais il était complètement choqué que son service puisse se livrer à des œuvres de basse police alors que la DST n'est pas faite pour ça.
En tout cas, ce livre est passionnant, je le recommande vivement. On est en plus dans ce livre nous rappelle une époque, hein, l'époque des années 70 et tout un contexte sans parler du reste de la suite que vous avez évoqué, Claude, ce qui s'est passé, les écoutes qui continuent sous les présidents suivants. Merci en tout cas Claude, merci Stéphanie.
Merci Mélier. À vous.
Votre livre s'intitule Les micros du canard, il est publié aux éditions Les Arènes. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver podcaster cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Nous parlerons des Afriques du 21e siècle. Pour reprendre le titre du livre de notre invité, le géographe spécialiste du continent, Georges Courade. Idée demain dimanche en dehors de Paris, 17h10 pour Paris et le monde et 18h10 pour l'Afrique. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.